Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Blaise Sindani Kamara.
Ituri, soignants en colère au centre Ebola. Prime impayé, conditions de travail dénoncées et ultimatum de 48 heures lancé aux responsables de la riposte. Bujumbura, Ndayishimiye prennent le dialogue. Opposition congolaise et responsables religieux formulent des propositions pour la paix et la stabilité en RDC. Rapport ONU, M23, rébellion ou projet politique. Administration parallèle, lien présumé avec Joseph Kabila et repositionnement tactique malgré les accords internationaux. Ce sujet a fait l'objet du débat dans notre émission Dialogue entre Congolais d'hier. Vous suivrez tour à tour les intervenants dans ces magazines au micro de Donamadi Mbambaya. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal parlé du matin. En Ituri, les activités ont été sérieusement perturbées. C'est lundi au centre de traitement d'Ebola de Rwampara, en périphérie de Bunia. À l'origine, une manifestation des prestataires engagés dans la riposte contre Ebola. Ils réclament le paiement de 2 mois d'arriéré des primes, mais aussi une amélioration de leur rémunération et de leurs conditions de travail. Dans un mémorandum adressé au gouverneur des provinces, ces soignants donnent un ultimatum de 48 heures aux responsables de la riposte pour répondre à leurs revendications. Reportage de Isaac Remoyopé.
Des pneus ont été incendiés lundi matin à l'entrée du centre de traitement d'Ebola de Rwampara par des prestataires engagés dans la riposte contre Ebola. Cette manifestation a perturbé les activités de prise en charge des patients. Les manifestants affirment qu'ils accomplissent leur mission avec professionnalisme, loyauté et dévouement depuis le début de l'épidémie malgré les risques sanitaires et sécuritaires ainsi que des conditions de travail particulièrement difficiles. Ils dénoncent notamment le non-paiement des 2 mois de primes et ce qu'ils qualifient de discrimination dans la fixation des rémunérations, estimant que leurs collègues venus de Kinshasa bénéficient d'avantages plus importants pour un travail similaire. Dans leur mémorandum adressé au gouverneur de l'Ituri, ils demandent l'ajustement et le paiement de leurs primes en fonction des risques encourus et des responsabilités exercées. Ils réclament également un renforcement de l'appui logistique dans toutes les zones de santé de la province, y compris les aires de santé, afin de renforcer la lutte contre la propagation de la maladie. Les prestataires accordent un délai de 48 heures à la coordination nationale de la riposte pour engager un dialogue et apporter des réponses concrètes à leurs revendications. À défaut, ils menacent de lancer d'autres actions de protestation. L'équipe de coordination de la riposte contre Ebola n'a pas encore réagi à cette situation. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Restons en Ituri où la distribution des vivres du programme alimentaire mondial a débuté ce lundi au site de Savo, à une centaine de kilomètres de Bunia dans les territoires de Djougou. Dès les premières heures de la matinée, des milliers de déplacés se sont rassemblés pour recevoir leur ration alimentaire. Une affluence massive qui suscite des inquiétudes face à l'épidémie d'Ebola. Mais pour les responsables locaux, l'urgence reste avant tout le retour de la paix. Reportage signé Jean-Claude Lokidile.
Depuis 2 heures du matin, des milliers de personnes ont envahi la cour de la paroisse catholique de Boulé où se déroule la distribution des vivres du PAM. Femmes, hommes et enfants patientent pendant des heures dans l'espoir de recevoir leur ration. Le site de Savo accueille aujourd'hui plus de 80 000 personnes ayant fui les violences dans le territoire de Djougou. Le curé de la paroisse catholique de Boulé, l'abbé Dieudonné Dzerudjo, s'inquiète de ces importants regroupements alors que plusieurs localités voisines, notamment Nizi, Lopa, Linji et Igabarrière, figure parmi les zones touchées par l'épidémie d'Ebola. C'est lui l'absence de dispositifs suffisants de prévention, notamment des points de lavage de mains, accroît le risque de propagation de la maladie. Le responsable religieux estime toutefois que la solution durable ne réside pas dans l'assistance humanitaire. Il plaide avant tout pour le rétablissement de la paix afin que les déplacés puissent regagner leur village, reprendre leurs activités agricoles et subvenir eux-mêmes aux besoins de leur famille. Bounia, Jean-Claude Lokidile, Radio Kapi.
Face à la crise politique, sécuritaire et institutionnelle que traverse la RDC, le dialogue apparaît plus que jamais comme une voie de sortie. C'est le message porté ce lundi à Bujumbura par le président burundais et président en exercice de l'Union africaine, Evariste Ndayishimiye, à l'issue de ses consultations avec les responsables de l'opposition congolaise et des représentants des principales confessions religieuses. Reçus séparément, les différentes délégations, notamment la coalition d'opposition C64, la CENCO, l'ECC et la plateforme des confessions religieuses ainsi que des églises du réveil ont formulé des propositions en faveur de la paix et de la stabilité. Le point avec Grace Amzati.
Devant le président burundais, la coalition d'opposition C64 affirme avoir insisté sur le respect de l'ordre constitutionnel. Franklin Tshamala, secrétaire général du parti LGD, explique.
Nous avons livré chacun notre point de vue par rapport à la crise profonde et multidimensionnelle que notre pays connaît et nos propositions ont envie d'en sortir. Et globalement, tout le monde convient qu'il faille tenir un dialogue inclusif, dans le cas duquel toutes les composantes importantes, tous les leaders qui ont de l'ancrage dans notre pays devront être participants. Et nous pensons que c'est positif. Nous sommes sur la voie de la tenue du dialogue.
De son côté, le président de la plateforme des confessions religieuses et des églises du réveil en RDC met l'accent notamment sur le respect des institutions du pays. Archevêque Évariste Eshibaya Mapia.
Le seul message, il fait appel à l'unité, à la cohésion nationale, à être ouvert et surtout au respect des institutions de la République. Les autres détails, lui-même, avec son homologue, le président Félix-Antoine Tshisekedi, ils vont voir quelles sont les orientations qui seront données.
À l'issue de ces consultations, la présidence burundaise indique que le président Évariste Ndayishimiye se félicite de la qualité des échanges et de l'engagement exprimé par les participants en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité en RDC, ainsi que dans la région des Grands Lacs.
Revenons à Ituri, où le gouverneur des provinces rassure la population. Toutes les dispositions sont prises pour rétablir durablement la paix. Le général Gabi Ngoïka Songola a affirmé dimanche, à son retour à Bunia, après une réunion tenue à Kisangani, avec les gouverneurs des 5 provinces de l'Est de la RDC. Il appelle également la population à collaborer avec les FARDC dans les opérations militaires contre les groupes armés, en particulier les ADF. Les détails avec Isaac Remoyope.
Selon les gouverneurs de l'Ituri, d'importantes décisions ont été prises lors de cette rencontre qui a réuni Didé au 4G à Kisangani, les gouverneurs de la Tchopo, du Haut-Uele, du Bas-Uele, de l'Ituri et du Nord-Kivu. Ces assises ont notamment permis d'élaborer un plan régional de lutte contre les ADF, un groupe armé qui continue de menacer la sécurité dans ces provinces. Elles visent également à renforcer le partage des renseignements, à améliorer la coordination entre les provinces concernées et à accroître la protection des populations civiles. L'objectif est de restaurer durablement la paix, en particulier dans les territoires de Mambasa et d'Irumu, fortement touchés par les attaques des ADF. Le général Gabi Ngoïka Songo appelle la population à soutenir les FARDC, à collaborer avec les forces de sécurité dans les opérations de traque des combattants ADF.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour rétablir rapidement et durablement la paix. J'appelle à chacun de faire preuve de la vigilance et collaborer avec les services de sécurité et d'alerter tout mouvement suspect. Je considère la population de l'Ituri comme le partenaire privilégié de la sécurité.
À noter que cette rencontre était organisée par le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Les forces armées de la RDC annoncent avoir repris le contrôle des 3 villages dans les territoires de Fizi, jadis occupés par les rebelles Twiraneo. Cette avancée est le fruit des combats menés autour des Minembwe au sud Kivu contre les Twiraneo et leurs alliés. Dans le même temps, l'armée indique avoir procédé à un repli stratégique du point zéro pour des raisons tactiques. Reportage de Ronéline Tibonera.
Et selon le porte-parole de l'opération Sokolade Sud-Sud Kivu, les villages reconquis par les FARDC sont Kachamata, Wiyene et Kimete. Le sous-lieutenant Rigen Mbui précise que lors de ces affrontements, les rebelles ont été contraints de se replier vers Ugezi et Bigaragara au sud des Minembwe. Cet officier assure que les FARDC restent déterminés à rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national.
Nous vous rassurons que toutes les dispositions opérationnelles sont prises pour assurer la protection poursuivre d'ailleurs avec la reconquête et restaurer progressivement l'autorité de l'État sur chaque position du territoire national.
Cette assurance est partagée par le vice-gouverneur du site Kivu, Jean-Jacques Elakano. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité tenue ce lundi à Uvira, il a balayé d'un revers de la main le rumeur évoquant la chute de Baraka aux mains des rebelles Twiraneho. L'autorité provinciale a invité la population au calme et à poursuivre ses activités quotidiennes. Ces assurances interviennent alors que plusieurs sources annoncent la prise de Mikenge et du point zéro par les combattants Twiraneho, appuyés par les RDF. Lors de ces combats survenus le week-end, l'administrateur du territoire de Fizi avait dénoncé la violation de l'espace aérien congolais par des drones en provenance du Rwanda.
Et puis à Kinshasa, un protocole d'accord a été signé ce lundi 6 juillet entre le ministère de l'intégration régionale et le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. À travers ces documents, les deux institutions s'engagent à renforcer leur coopération autour de plusieurs axes prioritaires. Plus de détails dans ce reportage de Benjamin Moudoumbi.
La contribution du PDDS relative à la paix était au centre d'allocution du coordonnateur national Jean des Dieux Désiré Tangantita.
Le PDDS a déjà contribué avec les commissions nationales et les programmes de plusieurs États membres des Grands Lacs à l'élaboration d'une procédure opérationnelle standardisée destinée à harmoniser les pratiques en matière de désarmement, de démobilisation, de rapatriement et de réintégration et de stabilisation.
Parmi les facteurs exogènes de la reproductivité et de la sécurité figurent les actes d'agression ainsi que l'activisme de groupes armés étrangers, a dit le ministre de l'intégration régionale Floribert Anzuluni Isilo Kechi.
Parmi ces derniers, il y a les ADF, il y a les FDLR et les FNL et les Red Tabara qui sont également une force burundaise. Pour remédier sans coercition à la situation des combattants des groupes armés étrangers, il s'impose une synergie entre mon ministère et le PDDRCS.
À travers ce partenariat, les deux institutions réaffirment leur engagement en faveur de la souveraineté nationale, du respect des droits humains, de la protection des civils, de la transparence, de la redevabilité et de la coopération interinstitutionnelle.
Une première usine de fabrication des tubes carrés vient de voir le jour en RDC. Ces barres de métal creux utilisées dans la structure et la tuyauterie marquent un investissement majeur de l'entreprise Sotrafero qui vient renforcer les capacités de l'industrie nationale. L'usine a été inaugurée ce lundi à Lubumbashi par le ministre intérimaire de l'industrie Justin Kalumba aux côtés du ministre du commerce extérieur Julien Paluku Kaunga. Reportage de Pone Monanga.
Un grand bâtiment abrite les machines qui fabriquent des tubes carrés. Il s'agit d'un long processus qui aboutit à la réalisation de ces matériaux qui sont principalement utilisés dans la construction. C'est notamment dans la réalisation des charpentes métalliques, des piliers de soutien ou des portails. Les tubes carrés sont aussi utilisés dans la mécanique automobile pour la fabrication des châssis pour véhicules et remorques. Le ministre national du commerce extérieur encourage cette industrie locale qui va profiter à la RDC. Julien Paluku.
Nous nous trouvons ici avec un complexe industriel qui effectivement s'inscrit dans cette logique de réduire cette facture d'importation parce qu'on ne va plus importer en sortant des millions et des millions de devises vers l'extérieur, en créant des emplois chez les autres, mais désormais on produit localement et nous comme ministre du commerce extérieur, nous allons accompagner ce complexe en prenant des mesures de restriction des importations parce que nous avons la capacité productive au niveau interne.
Signalons en outre que les deux ministres ont mis en service la machine de production de câbles armés et une usine de fabrication des transformateurs de l'entreprise Mining Engineering Service MS. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
À Mwanda, dans le Congo central, l'échouage suivi de la mort d'une baleine sur les plages suscite de vives préoccupations autour de la conservation des écosystèmes marins en RDC. Dans un communiqué publié le 4 juillet, l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme appelle les autorités à ouvrir une enquête environnementale afin de déterminer les causes exactes de cet incident. Basée au Nord Kivu, l'organisation estime qu'une telle démarche renforcerait la transparence et la crédibilité du pays dans le respect de ses engagements pour la biodiversité marine. Maître Olivier Ndolé, secrétaire exécutif de la CDH, est au micro de Bernadette Nyangui.
Je pense qu'il y a des questions fondamentales qui se posent par rapport aux enjeux de la conservation maritime, mais aussi par rapport à toutes les activités qui peuvent avoir conduit à cette situation tragique. Par exemple, la CDH se demande, est-ce que cette situation ne serait pas liée à des mouvements, des machines liées au forage, liées par exemple à la pollution, aux activités d'exploration et d'exploitation pétrolière offshore, des activités Perenco, ce sont des éventualités, mais également la responsabilité en termes d'équipement, parce que nous avons constaté cette bonne volonté de l'ICSN, mais on a senti une pauvreté d'équipement logistique qui pouvait peut-être sauver cette baleine. La CDH sollicite une enquête internationale avec des scientifiques qui pourront éviter que d'autres événements ne puissent se reproduire, mais également situer la responsabilité par rapport à tout ce qui est en train d'arriver dans le secteur de la conservation des écosystèmes marins.
Actualité internationale.
En Centrafrique, quatre jours après son occupation par les rebelles de l'Alliance du sursaut patriotique, la ville d'Am Dafok, dans la préfecture de la Vakaga, a été reprise ce dimanche 5 juillet par les forces armées centrafricaines FACA et leurs alliés russes. Située dans le nord-est de la République centrafricaine, à la frontière avec le Soudan, cette localité avait été attaquée le 30 juin dernier.
L'invité.
L'AFC M23 ne se limite plus à une simple rébellion armée. C'est l'un des constats majeurs du nouveau rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC transmis au président du Conseil de sécurité. Le document décrit un mouvement qui consolide son emprise militaire, met en place une administration parallèle dans les zones qu'il contrôle et poursuit un projet politique visant une République fédérale du Congo. Le rapport évoque également des liens grandissants entre l'AFC M23 et l'ancien président Joseph Kabila. Ce sujet a nourri le débat dans notre émission Dialogue entre Congolais d'hier. Écoutons un extrait des intervenants au micro de Dona Madimba Mbaya.
En Pacifique, Mayala, comment par exemple ce rapport des experts des Nations Unies peuvent être bénéfiques dans l'avancée vers justement les résolutions possibles de la situation à l'époque?
Il nous faudrait parvenir à construire un pays dans lequel les frustrations politiques et les désaccords sociaux ne devraient pas se résoudre en recourant aux armes. Il y a nécessité, je pense, dans notre pays à pouvoir repenser l'élargissement de l'espace civique. Cela ne commence pas avec le régime en place. Et je pense que lorsque vous regardez l'ossature ou la cartographie des acteurs qui se retrouvent aujourd'hui à l'est du pays, il y a certains qui n'ont rien à voir avec les réclamations qui, au départ, ont fait objet du cahier des charges du M23. C'est des personnes qui se sont brouillées pour certains intérêts personnels ou d'ordre politique ici à Kinshasa, et le lendemain il se retrouve de l'autre côté à Goma. Ça demande de l'effort, ce n'est pas impossible, laborieux peut-être au début, mais c'est un idéal que nous en tant que peuple pouvons se fixer comme objectif et l'atteindre. Et dans ces recommandations, je pense que le rapport est trop riche et assez fourni. Quand je vois que le rapport qui est normalement soumis au Conseil de sécurité recommande au Conseil que tous les pays membres, en cas de transfert de matériel militaire ou en cas d'initiation de coopération militaire avec le Rwanda, que cela soit signifié au niveau du Conseil de sécurité, que le Conseil mette encore davantage de pression diplomatique sur le Rwanda. Je pense que là sont des recommandations que peuvent exploiter les Congolais afin de voir comment est-ce qu'on a vu. Il y a eu pas mal de victoires diplomatiques assez récemment rapportées, mais encore une fois, la problématique de comment est-ce qu'on conserve le momentum pose problème. On ne devrait pas s'éparpiller. Aujourd'hui, se focaliser sur oui ou non Kabila avec le M23, au lieu d'exploiter la panoplie de recommandations fournies dans ce rapport, je pense que serait
la meilleure des choses à faire. Merci à vous, Henri Pacifique. Mayala Ferdinand Kambere, si vous êtes encore là, en 30 secondes.
Oui, je suis là.
Voilà. Comment, selon vous, ce rapport qui est là, avec tous les bémols qu'il peut contenir, peut aider à avancer vers les recherches rapides des solutions pour la pacification?
C'est un rapport, comme je vous le disais, qui accompagne la résolution 2873 que nous soutenons, serait un outil très très important. Il était inutile et superfétatoire de vouloir faire jouer l'ancien président de la République, Joseph Kabila, alors qu'il a toujours prodigué des conseils pour qu'on mette fin à cette tyrannie, qu'on mette fin à cette guerre qui continue à faire mourir. Je vois beaucoup même dans les rapports où l'EDF grossit.
Merci.
Parce qu'on la lie facilement à ces États islamiques qui auraient une région à l'est. Donc, aucune implication de ces EDF et les Ougandais alors que c'était des rebelles ougandais. Moi, je crois que toutes ces insinuations-là, comme vient de le dire mon prédécesseur dans cette intervention, les experts joueront en œuvre utile en insistant surtout sur les acteurs premiers. Ceux-là qui jouent un rôle direct.
Merci à vous, Ferdinand.
Qui rentrent inutile, qui est en train de diluer inutilement un rapport qui aurait dû servir la résolution 2873.
Merci à vous, Ferdinand Kambéré. Nous allons aussi terminer avec vous. Un mot en 30 secondes. Joseph Nkoy, député national. Comment est-ce que ce rapport de l'ONU, avec ses forces et ses faiblesses, en vous écoutant, peut-il aider à trouver des solutions à la situation de l'Est de la RDC?
D'abord, vous avez compris l'incohérence dans le chef de mon frère Ferdinand. Pourquoi? Lorsque le rapport incrimine l'ancien président de la République, il allègue qu'il s'agit des rumeurs. Mais lorsque le rapport parle des obligations qui reviennent en charge de toutes les parties prenantes, là, il est sincère. Mais nous pensons que le moment est enfin arrivé pour que nous essayions de déstructurer tout l'appareil qui avait été mis en place pendant 18 ans pour la déstabilisation de notre région. Que le peuple congolais prenne conscience davantage, accompagne les institutions de la République pour que notre pays reste uni et dire non à l'idée de la balkanisation.
Vous pouvez continuer à suivre notre magazine Dialogue entre Congolais sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.com. Voilà qui met fin à notre journal de ce matin préparé pour vous par Richard Junior Kamunga et mis en onde par Jean-Claude Nsiala Mwanama Kingonsoalo. Merci d'avoir été de notre. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix.